Pas un coup à la Lily en mode « Mais j'ai pas compris !»
Non. Non, ça c'est spécialité de Lily, hein.
Bon, on attendra qu'elle revienne alors.
Le gang des hystériques. Le gang.
Bim.
La question est que les femmes veulent se prendre en main elles-mêmes.
Justement des femmes noires dans leur pluralité, dans leur complexité aussi.
La plupart d'entre vous le sont.
Attendez-vous.
Ils savent qu'on ne peut empêcher les avortements
sur
clandestins.
Cette vie stupide.
Anti-patriarcat. Nous marchons aujourd'hui, c'est pour affirmer haut et fort que nous existons, que nous sommes fiers, que nous sommes magnifiques et que nous continuerons toujours à les battre.
Bonjour à toutes, à tous et aux autres, et bienvenue sur Le Gang des Hystéries, émission que vous pouvez écouter en podcast sur le site de Micro Rebelle, et également le troisième lundi de chaque mois sur PFM. Pour l'émission d'aujourd'hui, je suis avec Sarah.
Hello.
Et nous allons revenir sur ce qui s'est passé le 8 mars dernier. Mais avant ça, bien sûr, petit tour de nos actualités. Pour commencer, nous avons le bar LGBT le 1er avril. Non, ce n'est pas un poisson. Et, grande nouvelle, le bar LGBT se délocalise.
Où ça donc ?
Nous allons être à Angres, au Moulin de Tous. Donc en fait, on a constaté, plusieurs bénévoles de l'association, donc le planning familial, nous ont dit que ben, le bar LGBT c'était bien, mais que c'était à Lens et qu'ils n'avaient pas forcément les moyens un vendredi soir de se déplacer à cause des problèmes qu'il peut y avoir de bus, de transport en commun ou de transport tout court. Et donc, on a proposé à certaines localités d'aller s'installer chez eux le temps d'une soirée. Et à Angres, ils ont accepté. Donc, le 1er avril, à partir de 17h30, vous retrouverez toute la bonne ambiance de bar LGBT comme on pourrait le trouver au local du planning, mais qui sera cette fois-ci au Moulin de Tous.
Et donc ça veut dire que tous les mois, vous allez changer comme ça de...
En fonction des demandes qui nous arrivent, oui, on va pouvoir bouger.
Donc par exemple, ceux qui nous écoutent pourraient très bien contacter le planning pour dire qu'ils aimeraient recevoir le bar LGBT chez eux, quoi.
Exactement. Donc si dans une ville éloignée de Lens ou même limitrophe, hein, mais... Vous constatez qu'il y a des personnes qui sont en questionnement sur leur sexualité ou qui recherchent juste un milieu safe pour pouvoir parler de ça tranquillement sans être jugé, mal regardé, etc. Ben, il n'y a pas de souci, nous on peut venir, mais il faut bien sûr nous contacter. Donc n'hésitez pas, le Facebook, l'Instagram, le mail, c'est contact@planningfamilial62.org si vous voulez nous contacter. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours là-dessus.
Je pense qu'on n'y manquera pas.
Et par contre, pour le mois de mai, il n'y aura pas de bar LGBT parce que nous avons l'Assemblée Générale du Planning Familial 62 donc qui va revenir sur l'année 2021 qui s'est écoulée avec tous les projets qu'on a pu faire, tout ce qu'on va faire. On va vous présenter également la suite de nos événements. Et puis voilà, un bon moment pour se retrouver dans la joie et dans la bonne humeur en espérant encore sans masque.
Oui.
C'est déjà un bonheur de ne plus l'avoir, même si on continue à faire attention. Hein, le Covid n'a pas encore disparu.
Oui, jusqu'à ce qu'après les élections, nous disent de le remettre.
C'est ça. Donc on verra d'ici là, mais sachez, notez déjà qu'il y a l'AG le 6 mai à partir de 18h. Le lieu n'est pas encore communiqué. Mais n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ou nous demander pour le lieu.
Surtout que c'est un moment qui peut permettre aussi de rencontrer les membres, les salariés, les bénévoles. Peut-être même aussi, si jamais vous avez des projets ou des idées d'action, de venir les partager avec les membres de l'association.
Exactement. Merci beaucoup, Sarah.
Eh bien, de rien.
Nous allons continuer avec toi, ma chère Sarah, parce que l'agenda classique... est terminé, mais nous allons continuer avec l'agenda culturel. Et tu as un film à nous proposer.
Oui, alors hier soir, en zappant un petit peu de proposition en proposition sur Netflix, cette chère plateforme de films et de séries, ou pas chère, enfin bref, du coup j'ai regardé un film sur
cher
Netflix, bref.
Cher à nos longues soirées d'hiver avec le plaid et la boisson chaude.
Eh bien, j'ai regardé le film Marie Stuart, Reine d'Écosse.
Reine déchue, ça ne va qu'on n'avait pas vu le film.
Merci Florence Foresti.
Je vous en prie.
Donc Marie Stuart, Reine d'Écosse, qui est un film qui est sorti en 2018 dans les cinémas, qui est un film réalisé par une réalisatrice, il faut le noter quand même.
Ouhou.
Premier film de cette réalisatrice qui s'appelle Josie Rourke, qui vient d'Angleterre d'ailleurs, enfin du Royaume-Uni. Donc c'est un film qui, comme son nom l'indique, raconte l'histoire de Marie Stuart et qui est interprété par, alors attention l'accent, Saoirse Ronan, qui a joué dans pas mal de films anglais. Alors malheureusement, je n'ai pas regardé dans quel autre film elle a pu jouer. En tout cas, elle est assez connue et reconnue. Et il y a également une autre actrice qui interprète la reine Elisabeth. Il s'agit de Margot Robbie, que je n'ai pas reconnue du début jusqu'à la fin du film, jusqu'à ce que j'aille voir un peu sur internet de qui il s'agissait. Elle est méconnaissable, Margot Robbie, qu'on connaît pour avoir joué dans des Marvel par exemple, qui a joué notamment comment elle s'appelle, cette méchante là qui est tout le temps en lien avec le Joker.
Harley Quinn.
Oui, voilà, merci.
Je t'en prie.
Donc, elle joue ma Harley Quinn notamment, donc quand même dans des blockbusters.
C'est pas un Marvel, c'est un DC Comics.
Ah,
oh,
pardon.
On je vais me faire. Montage.
Là, pour le coup, moi aussi, je vais me faire couper la tête. c'est l'histoire de Marie Stuart, de sa. Enfin. De son arrivée en Écosse après avoir vécu la majorité de sa vie en France et juste après la mort de son premier mari qui était pour le coup français. Donc elle arrive en Écosse et elle arrive avec beaucoup de revendications. Marie Stuart, il faut le savoir, aurait pu être aussi l'héritière du trône de la couronne d'Angleterre. Puisque sa grand-mère, Marguerite Tudor, était la sœur de Henri VIII et que donc, par là, elle aurait pu également être héritière du trône d'Angleterre. Mais finalement, c'est Élisabeth Ier qui a récupéré la couronne. Élisabeth Ier qui, en fait, en plus, n'était pas forcément une enfant légitime de Henri VIII, apparemment. Enfin bref, du coup elle arrive en Écosse, libre, puisqu'en fait je trouve que dès les premiers temps du film, en fait, le fait d'avoir perdu son mari ne la rend pas pour autant, triste et elle ne s'apitoie pas sur elle-même, elle est combative et ça c'est quelque chose qu'on voit du début à la fin du film et qui rend ce film du coup très... très attachant, en tout cas de par le personnage qui est interprété, parce que elle est tout le temps dans le combat, dans la revendication de sa place, dans l'affirmation de qui elle est, et ce malgré un entourage et des conseillers qui lui disent sans cesse, encore et encore, ce qu'elle devrait faire. Elle est entourée bien sûr que uniquement d'hommes, en tout cas d'hommes politiques qui souhaiteraient l'amener à tel ou tel endroit pour pouvoir magouiller de telle ou telle façon. Et parallèlement, on peut dire aussi qu'elle est entourée de beaucoup de femmes, puisqu'elle a toute une compagnie féminine qui est autour d'elle pour... Voilà, c'est ses dames de compagnie, mais c'est aussi ses amis finalement. Et c'est assez frappant finalement de voir cette dualité entre cet univers féminin dans lequel elle est entourée et dans lequel elle va retrouver quand même de l'amour, de l'affection par ces femmes qui l'entourent. Et en face, ce milieu d'hommes à qui lui impose de faire un petit peu tout ce qu'ils souhaitent eux et qui malheureusement y arrive. Puisqu'on le sait, Marie Stuart, elle va se faire décapiter. Tout ça, c'est issu d'une rivalité liée à Élisabeth Ier, puisque tout le long du film, en fait, c'est vraiment cette relation qui lie donc Marie Stuart et Élisabeth Ier. Elles ne se rencontrent jamais, uniquement sur la fin du film où là il y a une grosse confrontation qui est d'ailleurs assez remarquable des deux actrices. Elles ne se rencontrent jamais, mais par contre tout le long du film elles ne font parler que de l'une ou l'autre. Et du coup c'est assez attachant aussi de ce côté-là, c'est-à-dire que l'une et l'autre ne se retrouvent finalement. Elles sont toujours très très seules et en même temps elles se disent elle c'est ma sœur, voilà, c'est quelqu'un en qui je peux me reconnaître, elle aussi est reine, elle aussi comprend ma place, il n'y a qu'elle qui peut me comprendre. Et c'est la tragédie de l'histoire, c'est que finalement l'une tuera l'autre, quoi. Tout ça à cause de magouilles finalement liées à des choses qui les dépassent. Et c'est un film féministe, ça c'est sûr, puisque de par le combat qu'elle mène, Marie Stuart, pour affirmer sa place, mais aussi, je trouve, parce que même si c'est un film voilà, qui nous ramène au Moyen-Âge, ça reste quand même, en tout cas l'interprétation qui est faite nous ramène à des questions d'aujourd'hui. Le rôle de la femme par rapport à la société, elle a des questions très actuelles sur comment, par exemple, son frère, le frère de Marie Stuart, qui souhaite finalement lui piquer sa place, puisqu'en fait, c'est toujours la question, c'est-à-dire que parce que je suis femme au pouvoir, et c'est d'ailleurs pour ça qu'Elisabeth Ier a décidé de ne pas se marier. Elle a très peur qu'on lui pique sa couronne, qu'un homme lui pique sa couronne. Je me suis perdue dans mes pensées.
Que son frère voulait sa place.
Oui, voilà. Donc le frère de Marie Stuart voulait récupérer sa place. Et tout ça dans la violence. Et finalement, Marie Stuart, elle arrive avec une réflexion qui veut sortir de cette violence masculine et faire en sorte que, justement, il y ait du pardon. Puisqu'elle va lui pardonner finalement d'avoir été un traître. Et tout ça, ça apporte, je trouve, quelque chose que j'avais pas vu encore vraiment dans d'autres films d'époque, où là, on a des personnages féminins qui prennent une envergure autre que celle masculine, où là, c'est toujours la violence. Là, on voit aussi un personnage féminin qui, du coup, se rend actuel par ses prises de position, qui se veulent plus dans la négociation. Et bon. Voilà, c'est un film que je vous conseille et que personnellement j'ai beaucoup aimé. Voilà, même si c'est lent, ça parle beaucoup, c'est pas grave, on apprécie quand même.
Super, merci beaucoup Sarah.
Eh bien, avec plaisir.
On se fait une petite pause musicale.
Allez.
Toujours de la part de Sarah, bien sûr. Tu nous as dit que tu avais un petit Alors, coup de cœur actuel.
Alors j'ai écouté le dernier album de Stromae qui est sorti la semaine dernière, je crois. Dans son album, donc il y a différents. Alors à chaque fois, les titres de Stromae, c'est toujours avec une thématique précise. Et là, justement, c'est le féminisme. Et ce qui est agréable, c'est qu'il prend le point de vue d'un homme dans la société qu'on a aujourd'hui. Et il dit qu'il faut prendre sa place aussi en tant qu'homme pour faire perdurer le combat et aider les droits des femmes. Voilà, donc on peut écouter ça.
Donc c'est Stromae et le titre s'appelle Déclaration. On se retrouve de suite après.
Si le courage avait un visage, il aurait le tien. Pas besoin de grand chose, mais de toi j'ai besoin. Je sais pas si je crois en Dieu, mais en toi je crois bien. Et pourquoi serait-il masculin? Pardonne-moi, on n'est pas misogyne, on le devient. Mais faudrait surtout pas que madame porte la culotte. Même si la charge mentale, on sait bien qu'il la porte. Et si être féministe est devenu à la mode, c'est toujours mieux vu d'être un salaud qu'une salope. T'inquiète pas, ça va aller, faudra bien que ça change. Ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange. T'inquiète pas, ça va aller, faudra bien que ça change. Ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange. Toujours obligé d'aimer enfanter.
Toujours obligé d'aimer enfanter.
La contraception qui te détruit la santé.
La santé, la santé, la santé.
Endométriose enchantée.
Endométriose.
Je suis mieux payé que toi sans vouloir me vanter.
Me vanter, me vanter.
Mais faudrait surtout pas que madame porte la culotte. Même si la charge mentale, on sait bien qui la porte. Et si être féministe est devenu à la mode, c'est toujours mieux vu d'être un salaud qu'une salope.
T'inquiète pas, ça va aller, faudra bien que ça change.
Faudra bien que ça change.
Ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange. T'inquiète pas, ça va aller, faudra bien que ça change. Ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange.
T'inquiète pas, ça va aller, faudra bien que ça change.
Ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange. T'inquiète pas, ça va aller, faudra bien que ça change. Ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange.
Vous êtes toujours à l'écoute du Gang des Hystéries sur Micro Rebelle.
De retour parmi nous avec Sarah pour le Gang des Hystéries.
Et moi-même. C'était donc Stromae avec son titre de déclaration.
Exactement, merci beaucoup Sarah. Nous allons revenir sur ce qui s'est passé le 8 mars dernier, je rappelle, journée de lutte internationale pour les droits des femmes. Et en ce jour, nous avons eu Roxane, qui est une des salariées du Micro Rebelle, qui nous prête le matériel pour faire l'émission, qui est allée à la manifestation de Lille et qui a eu la très bonne idée de ne pas juste interroger les personnes qui étaient venues manifester, mais également interroger les personnes qui étaient un peu sur le bas-côté de la manifestation et qui avaient des arguments plus ou moins recevables, dirons-nous. Donc, on vous laisse avec son montage, sa petite interview, et on se retrouve de suite après pour en parler.
Manifestation à Lille le 8 mars 2022 contre le patriarcat, le patriarcapitalisme, les violeurs, contre les inégalités de genre.
Une manifestation qui permettait de se rendre compte que nombreuses sont les personnes qui crient leur colère. Cette manifestation, pourtant, a rencontré des critiques.
Après voilà, c'est un combat qui est compréhensible, mais il ne faut pas aller trop loin. Moi, ce que j'ai peur, c'est que ça aille trop loin derrière.
Comme dans tous les combats.
Au cours de ce reportage, vous allez entendre des prises de parole courageuses, de manifestantes, mais également des personnes qui étaient sur les côtés de la manifestation et qui regardaient d'un œil méfiant, voire d'un œil critique, la tenue d'une telle manifestation.
Quel jour c'est aujourd'hui ?
Bonne question.
C'est la journée de la femme ou un truc comme ça, non ? Ouais, c'est ça ? C'est ça, oh, j'ai bon, putain, j'ai bien révisé.
Il y a besoin de manifester pour ça ?
D'après toi ?
Je pense pas d'aller.
On connaît pas leurs. Enfin, quelles sont les revendications
Eh bien, déjà, stopper les violences physiques, les violences morales, que les violences physiques soient entendues quand on va dans un commissariat, parce qu'il n'y a que 10% des plaintes qui suivent, qui donnent quelque chose. Et puis, accepter que les violences morales et harcèlement sont aussi des violences, c'est-à-dire la manipulation, par exemple. L'égalité des droits, par exemple, l'égalité des salaires.
Pourquoi manifester dans cette rue ? Parce que c'est vraiment, enfin, c'est une rue avec beaucoup de barres, mais ça a pas.
Car il semble encore que pour certains, l'égalité entre les hommes et les femmes ne soit même pas hissée au rang de possibilité ni de possibilité souhaitable.
C'est pas question de siècle, c'est question de ce qui est dans l'ADN.
Vous arrange en fait. Pense que ça vous arrange en fait de maintenir les choses comme ça.
Non, mais c'est.
Parce que vous y gagnez.
Ainsi, vous allez autant entendre des arguments constructifs.
Et genre, on prend tout le monde dans notre lutte féministe. Elle concerne les personnes racisées, les personnes de toute religion. Et on veut juste les mêmes droits que tout le monde, entre tous les humains. Et pour ça, on est prêts à se battre.
Des cris de colère.
Feu, brûlez-les tous.
Que des propos parfois choquants. Le problème est toujours vif et la nécessité de cette résistance toujours prégnante. En effet, les arguments naturalistes, essentialistes, c'est-à-dire que par nature, nous devons nous assigner à nos rôles, entrent en conflit avec ceux qui soulignent que l'inégalité instituée entre hommes et femmes est une construction sociale.
Alors pour déjà l'égalité, c'est, on peut dire déjà il y a déjà une très différence entre l'égalité de genre et l'égalité entre femmes et hommes. Je vous dis exemple, vous demandez l'égalité des salaires dans des professions. Alors que tu peux jamais avoir cette égalité. Par exemple, si on parle d'infirmière, tu peux pas avoir égalité de salaire entre infirmières parce que tu trouves toujours des femmes occupent beaucoup de professions, des infirmières plus des hommes. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est la nature des femmes, c'est qui sont plus, on peut dire, c'est pas aimable, mais ils ont
dans le soin.
Ils sont dans le soin.
C'est plus dans l'accompagnement.
C'est naturellement.
Je crois pas que c'est dans l'éducation plutôt que dans la nature.
Non, c'est pas l'éducation, mais c'est dans la nature déjà. C'est les femmes sont plutôt, c'est pas aimable. J'ai oublié l'adjectif.
Empathique.
Ouais. Des arguments auxquels nous nous sommes bien sûr opposés.
Moi, je pense qu'il y a les hommes sont tout aussi empathiques.
Mais c'est pas.
Ont la capacité de l'être, mais ils peuvent ne pas l'être. Eux, ils peuvent se permettre de ne pas l'être. Nous, on doit être dans le soin de l'autre. Tu vois? Et c'est pas
qui,
naturel.
Qui dit, non mais qui dit que tu dois être dans le soin?
Vous êtes empathique,
mais
qui, ça se voit.
Qui dit que tu dois être dans le soin?
Bah, moi je le dis
qui,
à ma
qui
copine.
Le dit, mais qui te le dit? Genre tu dois être dans le soin des autres personnes.
Eh bien, je te le dis, c'est une éducation qui mène à ça, c'est tes attentes aussi. Si en tant que femme, tu t'occupes pas des autres et de l'homme et tout ça, tu es stigmatisée. Si tu choisis de pas avoir d'enfant, si tu ne t'occupes pas, machin. Alors qu'un homme, il peut ne pas s'occuper de ses enfants. Il peut choisir après, d'être seulement égoïste.
C'est une vision qui est quand même vachement. C'est une vision. C'est une vision qui est vachement. Qui date d'il y a 15-20 ans, ce que tu es en train de me dire là.
Oui. Mais c'est pas vachement.
Ça date d'il y a même plusieurs siècles.
C'est pas question de siècle, c'est question de ce qui est dans l'ADN.
Vous arrange en fait. Je pense que ça vous arrange en fait de maintenir les choses comme ça.
Non, mais c'est.
Parce que vous y gagnez.
Non. Non, c'est pas question de gagner ou pas, c'est question de chacun ses propres outils dans la nature.
À son propre rôle.
Avec l'explication de nature. Vraiment, moi je veux bien entendre des arguments, mais de nature.
Oui et non,
nature,
oui et non parce que un homme ou une femme ne peut pas avoir cette vision empathique qu'il peut avoir, mais que ce soit un homme ou une femme, le résultat reste le même.
C'est question d'hormones, question beaucoup de choses. Physiologiquement.
Eh bien, sache qu'en fait, non. La testostérone ne mène pas à moins d'empathie.
Je parle même pas
ça mène à de l'empathie aussi.
Je parle même pas de testostérone, je parle de toutes les hormones.
C'est estrogène ou testostérone.
C'est pas même les deux, c'est l'ensemble des hormones. C'est déjà quelque chose qui est déjà défini. Tu peux pas modifier ça.
En fait, c'est une proportion différente d'un individu à l'autre. Et il y a des hommes qui ont beaucoup de testostérone et des femmes qui ont beaucoup. Donc tu vois, c'est pas par nature. C'est pas par nature en soi.
Oui.
Il y a les œstrogènes. Mais en fait, on a montré que la testostérone amène à autant d'empathie aussi. Et c'est pas ça qui vous amène à être violent et brutaux.
Il est donc apparu évident que la lutte se joue encore ici et maintenant. Cette lutte de la journée du 8 mars n'est pas seulement une lutte pour les droits des femmes en France, mais est bien une lutte internationale.
No sé qué decir. ¿Tú quieres decir algo? Si tienes alguna palabra en contra del patriarcado. No sé qué decir.
Nombreuses sont les raisons de la colère.
Oui, déjà, le combat anticapitaliste, il me semble que c'est vachement lié, va aller vers d'autres modes de production, de consommation, de faire ensemble plus égalitaire, plus juste, forcément. Je pense que tout est lié de toute manière. Et après, la lutte antifasciste, là, on le voit actuellement, ce qui se passe entre la sélection entre les bons migrants et les mauvais migrants. C'est absolument dégueulasse, c'est absolument décomplexé, c'est ultra gênant, en fait. Donc... je pense que ouais, c'est une lutte intersectionnelle, vraiment, genre on met tout ensemble.
Est-ce que tu peux me dire le lien que tu fais entre justement les difficultés liées à la société capitaliste ou à l'oppression de migrants et la lutte pour plus d'égalité, la lutte pour un respect des femmes?
Ok, je pense que le capitalisme, il soumet en fait la femme parce que la manière dont c'est produit, les invisibles, c'est la plupart du temps des femmes, les femmes qui font du ménage, les femmes qui sont peu qualifiées et qu'on considère absolument pas, qui sont sous-payées et qui ont des conditions de travail abominables. Et je pense aussi, de base, oui, dans le capitalisme, il y a l'homme qui va travailler et qui s'épuise au travail et la femme à côté qui fait en sorte qu'il puisse régénérer ses forces et du coup qui s'occupe de la maison, sauf qu'actuellement, en fait, maintenant, elle travaille aussi. Et donc, du coup, c'est vraiment la double journée et c'est vraiment pas cool, quoi.
Et ça s'est tellement vu aussi pendant le confinement. Il y a des études sociologiques qui ont montré que même dans le cadre de toute classe sociale confondue, dans le cadre du couple en confinement, les deux travaillent, l'homme peut prendre un espace safe, un espace dans la chambre par exemple, tandis que la femme
doit être au milieu de la cuisine, doit être en train de faire à la fois son travail et le reste.
Oui, c'est ça, elle est présente surtout. Moi, je l'ai vue, j'ai passé le confinement en famille et ma mère s'occupait des devoirs. Bon, mon beau-père cuisinait beaucoup aussi, mais plus les devoirs et tout. Elle était vraiment présente sur tous les champs, en fait. Et elle travaillait en télétravail aussi, comme mon beau-père, mais ça se voit, en fait, elle prend naturellement, on dirait. Et lui, il se pose pas forcément la question. Enfin, il va regarder son film à côté. Enfin, voilà, je pense que ça se voit vraiment dans nos entourages aussi. Ça, ouais, complètement.
Comme le dit cette manifestante...
Il faut que la peur change de camp et que la honte change de camp aussi.
Quels que soient les milieux professionnels, il existe encore de fortes inégalités entre hommes et femmes, notamment du point de vue de la proportion de cadres.
Ouais, bah du coup, donc moi je travaille dans le cinéma d'animation et je suis plutôt en poste à responsabilité et je me rends compte qu'effectivement, le patriarcat ça touche tout le monde puisque on se rend compte que en termes d'étudiants, il y a à peu près 80% de femmes étudiantes dans les écoles de cinéma d'animation et dès que tu passes des postes à responsabilité, le pourcentage chute drastiquement puisqu'on est à entre 20 et 30%. Et y compris dans les réalisateurs, on se rend compte que les réalisateurs, c'est principalement des hommes. Donc on voit bien qu'il y a une invisibilisation qui se fait par tout ce système d'intégration aussi de ta place, de l'assignation, où est-ce que tu dois être. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote où il y avait un réalisateur qui présentait son film qu'il avait co-réalisé avec une réalisatrice. Et il y a une nana dans la salle qui pose la question de pourquoi est-ce que vous avez décidé de travailler avec cette personne. Et le mec a sorti un truc mais qui m'a sidérée. Il a dit je suis comme un petit garçon qui sait jouer, qui sort ses idées un peu partout, qui sait jouer comme un peu ses jouets, qui sort partout. Et j'avais besoin d'une femme pour qu'elle m'aide à ranger en fait mes idées. Et tu vois, et tu sais, t'es là, tu te dis et j'en parle avec des collègues après qui me disaient mais en fait c'est pas rare que des mecs demandent, par exemple des mecs réalisateurs demandent que le monteur de leur film, ça soit une monteuse. Tu vois, et en fait, effectivement, tu te rends compte que les femmes, elles occupent des postes hyper genrés en fait dans ce milieu-là, mais comme dans tout un tas d'autres, voilà. Ouais, c'est ça. Ranger les jouets des mecs.
Et les divertir.
Ouais, c'est ça.
Sans passer à côté du lien fort qui existe entre cette inégalité de genre, ces violences faites aux femmes, et les inégalités de classe, et ces violences faites à la nature.
Je pense que le patriarcat mène fortement aux droits des femmes. D'ailleurs, on parle de l'écoféminisme en ce moment. Nous, on est ici pour ça aussi, pour se renseigner dans cette manifestation, pour l'écoféminisme, voir le lien entre l'économie, l'écologie et le féminisme. Comme quoi les femmes ne sont pas obligées de procréer pour exister, ne sont pas obligées d'être femmes au foyer pour exister. Et ce n'est pas du tout leur seule tâche, ou quoi. Même s'il n'y a aucun problème contre ça, et elles peuvent également réaliser leurs rêves ainsi. Mais voilà.
Et tu peux me dire dans quelle mesure tu fais un lien entre, disons, le patriarcat à un niveau économique et le problème écologique ou le non résolution des problèmes qu'on a à un niveau écologique.
Alors c'est ce que du coup montre la notion d'écoféminisme. Donc c'est une notion qui est arrivée dans les années 70 en France. Et c'est tout simplement pour dire que les femmes ont souvent, ont tout le temps été considérées comme des procréatrices et donc comme des personnes qui ont augmenté la démographie et qui ont voilà. Du coup, en fait, la démographie va avec le lien du capitalisme, comme quoi on augmente tout et il n'y a plus aucune... Il faut laisser les richesses du monde. Et comme quoi, du coup, l'écologie, du coup, notre planète est totalement... ressemble à un chaos, tout à fait, et exploite les femmes, le patriarcat exploite les femmes comme exploite notre terre.
C'est pourquoi certaines se revendiquent écoféministes.
C'est triste que toujours en 2022, on doive en parler, quoi, que ça existe.
Mais nous, on milite pas seulement pour la violence physique, mais genre tout court, genre toutes les injonctions, la charge mentale, tout ce qui se passe mentalement et qu'on voit pas et qui est quotidien et qui doit cesser.
Là, je te remercie d'en parler parce que c'est des choses qui sont invisibilisées et auxquelles ne pensent pas forcément et ne pensent même pas du tout en fait. Certains hommes qui minimisent les violences faites quand on dit « Oh, bah, c'était pas une main au cul, oh, bah, c'était pas un viol. Oh, » bah. Et du coup, sur ça, est-ce que tu veux bien développer un petit peu plus ?
Bah, juste, je pense que assez tôt, la femme, enfin même des fois la fille qui n'est pas encore femme, de par la société, comment elle est construite, elle prend des responsabilités par elle-même, sauf qu'après ça devient vite un poids parce qu'on lui laisse porter tout ça, et quand par exemple si on a un conjoint ou un frère etc., on lui explique, c'est directement oui, la personne va nier parce que pour elle ça se passe pas comme ça dans la vraie vie, alors que nous quotidiennement on subit en fait ces injonctions. On subit de voir par exemple plus s'intéresser aux autres qu'à soi-même parfois en fait.
Un peu de colère salvatrice.
Merci beaucoup Roxane pour ce magnifique interview-reportage que vous pouvez retrouver bien sûr sur le site de Micro Rebelle. Revenons un peu sur ce reportage. Donc, j'ai beau être un homme, mais les propos qui sont tenus au début par les trois messieurs, là, ça m'a hérissé le poil. je ne sais pas toi ce que
tu en as pensé. Il y a eu beaucoup de choses dans tout le reportage, mais c'est vrai que la première partie est vraiment intéressante dans le sens où, en fait, c'est vrai que quand on est dans le féminisme, quand on a pris cette petite pilule qui est la pilule du féminisme et qui nous fait voir le monde quand même sous un autre jour, on ne se rend pas forcément compte qu'en face, on n'a pas des gens qui se sont positionnés ou qui se sont questionnés sur ces problématiques. Et finalement, c'est pas mal aussi hein, de se faire une petite piqûre de rappel, de se dire que finalement, la pensée commune, c'est quand même de se dire ben ça fait un peu chier quoi. La journée du 8 mars, ouais, c'est cool. Enfin voilà, on va parler du droit des femmes. Et d'ailleurs, il y a certaines féministes qui pensent d'ailleurs que la journée du 8 mars peut être aussi contre-productive parce que finalement, c'est une journée qui permet de se dédouaner le reste de l'année. C'est de dire oui, bon, ça va, enfin, on fait la journée du 8 mars, on va parler du droit des femmes cette journée-là, donc les politiques peuvent s'afficher d'ailleurs cette journée-là spécifiquement, hein, c'est vraiment médiatiquement le moment parfait pour s'afficher là-dessus, et puis le reste de l'année, finalement, on peut continuer dans notre petit ronron quotidien.
Surtout qu'à 2 mois des élections présidentielles, ça passe bien.
Aussi, mais en tout cas, je comprends aussi cette position de dire que le 8 mars, en fait, oui et non, quoi. Parce que oui, ok, c'est bien, on va faire une journée dans laquelle on va médiatiquement en parler, mais aussi c'est une journée qui va faire en sorte que toutes les autres journées de l'année, on va ne pas en parler peut-être aussi. Enfin bref, en tout cas, le reportage et du coup ces témoignages d'hommes là qui sont en marge de la manifestation et qui expriment du coup leur position témoignent quand même que la majorité de la société reste encore bien dans ce petit ronron dont je parlais. Et oui, on est encore bien loin de la fin de la bataille. En tout cas, comme disait Roxane, on a trois points de vue dans ces témoignages. C'est-à-dire qu'on a un point de vue d'une personne qui, pour le coup, ne se positionne pas vraiment et ne veut pas se positionner parce que finalement, ça l'arrange. On a ces personnes, ces hommes qui choisissent, et peut-être même ces femmes aussi, hein, qui choisissent finalement de ne pas se battre pour l'égalité, parce que finalement, ça permet aussi de bien vivre son petit train-train quotidien, d'avoir quelqu'un comme ça, qui, enfin, d'avoir cette société-là, c'est arrangeant. On a aussi cette deuxième personne qui, pour le coup, pense que c'est dépassé, que ces questions-là, bah, on les a déjà résolues, quoi. Il n'y a plus trop besoin de se poser de questions là-dessus. Et enfin, on a une personne qui va être dans le... bah, en fait, on n'est pas tous comme ça, quoi. Donc ça ne sert à rien de penser « not all men », comme on disait. Donc on n'a peut-être pas besoin de toujours critiquer tous les hommes, de dire qu'ils nous font tous chier, enfin bref. Je suis un peu vulgaire, mais...
Moi, il y a le scientifique qui ressort là et qui a du mal à entendre les propos en disant que
testostérone,
c'est... Non, que c'est dans l'ADN, que c'est naturel que la femme soit l'inférieure de l'homme. T'es là, tu dis, bah, c'est juste la même espèce, mais qui a le mâle et la femelle. Donc, en fait, il n'y a pas de inférieure, supérieure qui soit créée dans l'ADN. Alors, il y a peut-être des comportements... de par le sexe de l'individu qui sont inscrits dans l'ADN, mais après, comme Roxane a essayé de leur faire dire, c'est l'éducation de la personne qui va faire que si un homme a été éduqué dans le respect de la femme et dans l'égal de la femme, il tiendra jamais ce genre de propos, quoi.
Et c'est pas par nature qu'on devient infirmière, par exemple.
Oui, voilà, et certes, si le métier d'infirmière, il y a plus d'infirmières que d'infirmiers, c'est pas pour autant que parce qu'un métier est dit féminin qu'il faut mal le payer. Il y a quand même des hommes et pas forcément des homosexuels qui travaillent, qui sont infirmiers et qui aiment ça et qui peuvent être un peu plus payés que des femmes. Mais pourquoi au final? Alors qu'ils font le même métier, ils font le même travail, ils ont la même passion, si on peut utiliser ce terme-là. Donc il n'y a aucune logique là-dedans. Dans un métier féminin, c'est normal qu'ils soient moins bien payés.
Et par la suite, j'ai trouvé très intéressant l'intervention de cette femme qui travaille dans le milieu de l'animation, du film d'animation, et qui disait que pour le coup, bah, là, clairement, il y a plus d'hommes que de femmes. Et que par ailleurs...
Alors, dans les hauts placés.
Oui.
Dans les postes à responsabilité.
Oui, et que certains réalisateurs choisissaient des monteuses plutôt que des monteurs parce qu'elles avaient ce côté peut-être organisatrice qui fait un peu comme la maman qui passe derrière pour ranger, comme elle disait, les jouets qui traînaient un peu partout, quoi.
Ça fait beaucoup, étant en collège, on le sait, mais ça fait beaucoup les gamins avec AESH en mode ils ne savent pas se tenir, il leur faut une aide pour leur aider à faire les recours, quoi. C'est vraiment...
tout de suite beaucoup moins valorisant, en fait.
Non, voilà, donc les mecs pensaient un peu à ça, quoi, parce que vous faites pitié.
Oui, en effet.
Il y avait aussi les questions d'intersectionnalité. Alors, ce terme, on a pu déjà en parler, c'est beaucoup revenu. Pour faire court, c'est en gros que toutes les luttes ont un point commun. Et là, on regroupe... féminisme, on regroupe anticapitalisme, on regroupe antifascisme et on regroupe même écoféminisme. Donc c'est vraiment, certes on parle des droits des femmes parce que c'est le but, mais lutter pour le droit des femmes, c'est lutter contre le capitalisme, donc la société qui demande plus d'argent. Donc elle disait, en parlant d'écoféminisme, on est des pondeuses d'enfants et tout ça, mais vu qu'on fait plus d'enfants, bah, y a plus de demandes, donc il y a plus d'argent qui est en jeu, donc on en produit toujours plus. Donc ça ne va pas aussi avec le modèle écologique, où on dit qu'il faut faire moins d'enfants si on veut que la planète continue à survivre, parce que sinon on va épuiser les réserves de la planète. Et tout ce qui se passe en ce moment, malheureusement, avec l'Ukraine et le problème du fascisme, qu'est-ce qu'un bon migrant, qu'est-ce qu'un mauvais migrant? Est-ce qu'une femme syrienne a moins de valeur qu'une femme ukrainienne? Enfin voilà, il y a tout ça. Et donc l'intersectionnalité, c'est ça, c'est que toutes les luttes, au final,
se rejoignent
et pour combattre la même chose.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, en fait, et je pense encore, ça doit être encore le cas dans la tête de pas mal de gens, c'est de se dire que ces questions d'égalité, finalement, c'est des questions qui doivent se jouer au sein du foyer ou dans l'intimité. Enfin, c'est pas des questions qu'on devrait même traiter dans la politique, alors qu'en fait, finalement, le féminisme, c'est vraiment une question politique. Et je pense que là, c'est vraiment en train de s'imposer cette idée-là à travers justement l'idée que... Bah, le féminisme, c'est aussi, enfin, être féminisme, c'est féministe, c'est aussi lutter contre un modèle de société qui est capitaliste. Et ce modèle de société capitaliste, comme le disait encore une fois une des intervenantes dans le reportage, c'est refuser justement cette éducation qui mène les femmes vers des métiers du soin, des métiers invisibles, des métiers dans lesquels elles vont être sous-payées et exploitées. Pour une économie qui n'est pas la nôtre, parce que on en a marre de devoir être poussé à la croissance, à la productivité, à du coup également la destruction de la planète. Et du coup, bah, on rejoint là l'écoféminisme. Enfin, en fait, le féminisme, c'est pas simplement une question qui se joue au sein de la maison. C'est pas des questions qui restent entre monsieur et madame. Dans l'éducation des enfants, c'est des questions vraiment qui se jouent aussi dans la sphère sociale, qui se jouent au travail, qui se jouent partout, quoi. Et du coup, là, je trouvais que c'était vraiment intéressant cette deuxième partie du reportage dans laquelle on accentuait vraiment l'idée que c'est aussi un positionnement social que d'être féministe, et c'est aussi des choix politiques, quoi. Donc on espère, c'est pas évident, parce que quand on entend ces premières personnes là, ces premiers hommes qui parlaient et qui avaient un point de vue sur cette manifestation, on peut se demander comment amener les mentalités à changer, parce que quand on se rend compte que finalement c'est bien arrangeant le machisme et le patriarcat, en fait, on fait quoi, parce que c'est une lutte contre une lutte, et c'est pas pour rien qu'on est en colère, quoi.
Et n'hésitez pas à voir, parce que je vais faire quelque chose d'un peu cliché, mais c'est vrai que les adultes, s'ils sont pas intéressés par ces questions-là, si on n'arrive pas à les faire remettre en question, c'est un peu difficile de changer les mentalités d'adultes. Par contre, chez les enfants, alors, ce n'est pas de l'endoctrinement, c'est de leur faire prendre conscience de ce qui se passe. Mais vous pouvez demander à certaines associations de faire des interventions auprès des jeunes sur l'égalité femmes-hommes. Ça se fait de plus en plus. Il y a pas mal d'associations qui le proposent, alors soit dans le cadre scolaire, soit extrascolaire, bien sûr. Mais il y a quand même des associations qui proposent ça. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'associations formatrices qui peuvent très bien vous orienter et proposer des animations pour les jeunes si cela vous intéresse.
Oui, c'est pas pour rien que c'est dans le milieu de l'éducation qu'on va aborder ces thématiques, parce que ces thématiques-là, elles sont problématiques au sein des relations entre enfants, et elles vont créer des violences entre enfants. Et pour le coup, nous-mêmes, on travaille dans le milieu de l'éducation, et quand on voit des choses qui se passent au sein des établissements scolaires, ça se joue beaucoup justement sur les stéréotypes de genre, quoi. Donc c'est pas pour rien qu'on fait intervenir ces associations-là, et qu'on essaye de faire éveiller les consciences des enfants, de leur faire dire, de leur faire prendre conscience que malgré eux, ils interprètent des rôles qu'on leur a donnés, mais qu'ils n'ont pas forcément choisis.
Surtout qu'on leur a donné, mais par défaut. On leur a donné par défaut, c'est-à-dire que parce que la société fonctionne comme ça, il faut que moi, en tant que garçon, je sois viril, macho, qu'on ne me considère pas comme une tapette, enfin voilà quoi. Et en tant que fille, moi, d'être toute sage, toute gentille, bien élevée, à apprendre à faire la cuisine, la vaisselle et le ménage, quoi.
Donc, bon, il y a plus un côté que de l'autre qui pose problème, quand
oui,
même.
Oui, mais pareil.
Mais,
quand on
non, disait, mais je suis d'accord.
Parce que le problème des tâches ménagères, on l'a entendu encore dans le reportage, c'est la gamine qui dit qu'elle a vécu avec ses parents et que sa mère prenait naturellement le dessus sur les tâches ménagères pendant le confinement. Donc, on est là en mode, non, en fait, c'est pas naturel. C'est parce qu'elle a tellement eu l'obligation de le faire que c'est ancré dans une habitude, mais c'est pas naturel du tout, en fait. Donc il faut remettre tout ça en question pour
Oui, puis c'est pas évident, parce que dans les médias, dans la société, c'est pas la priorité, et puis de toute manière, on fait que perpétuer ces standards-là et ces stéréotypes-là, que ça soit même encore dans les séries, dans les films. On a beau présenter aujourd'hui dans notre émission des films et des séries qui se veulent féministes, malheureusement, quand on allume la télé, c'est pas le cas, quoi. On a vraiment que des standards et des stéréotypes qui nous sont représentés et qui sont problématiques, quoi. Enfin, ne serait-ce que, justement, on en parlait de la télé-réalité, ouais. Qui se trouve être quand même un des premiers programmes regardés par les adolescents. Bah, c'est quand même compliqué de se dire que ces modèles-là, ce sont des modèles qu'ils vont vouloir adopter aussi dans leur rapport entre eux. Ce sont des modèles de post-adolescents finalement, enfin de jeunes adultes qu'ils prennent comme en admiration presque, hein, avec ces femmes, ces femmes-filles, ces femmes-enfants encore... qui sont toutes refaites, qui sont toutes passées par la chirurgie esthétique. Elles se sont toutes refaire faire les seins, les fesses. Elles ont toutes adopté un standard de beauté qui est forte poitrine,
taille fine
et postérieure plus proéminent, hein, un peu à la Kim Kardashian. Mais le problème, c'est qu'en fait, tout ça, ce n'est pas réel. Ouais. Et c'est des standards de beauté qui aujourd'hui... vont créer des complexes chez les jeunes filles qui vont créer quand même de la boulimie, de l'anorexie, etc. Ça se retrouve, une fois que c'est sur la télé, ça se retrouve aussi sur les réseaux sociaux, que ça soit Instagram ou TikTok. En ce moment, il y a d'ailleurs un gros truc sur Instagram qui critique ce filtre qui fait paraître le visage de façon très naturelle, très... On dirait qu'il n'y a pas de maquillage et tout, mais qui efface tous les défauts. Et c'est vrai qu'heureusement, il y a quand même quelques voix qui s'élèvent pour dire, justement sur les réseaux sociaux, attention, ce n'est pas la réalité. On n'est pas censé être aussi parfaitement lisse et avec un teint aussi uniforme. Donc oui, heureusement, il y a quand même des choses qui circulent, mais majoritairement, les enfants, ils sont face à des standards et des représentations qui sont quand même très très compliquées à suivre et qui les font tout le temps se sentir bizarres et anormaux, quoi.
De toute façon, ça peut refaire le sujet d'une autre émission.
On
gardera ça en stock et on
la télé-réalité et les médias, le sexisme dans les médias, ça peut être quand même assez intéressant.
Donc nous avons pas Lily avec nous aujourd'hui, mais nous avons la chance.
Elle nous manque beaucoup.
Nous avons la chance qu'elle ait pu nous faire une petite chronique badass. Donc on vous laisse avec Lily et on revient de suite après.
Tawanda. La chronique badass.
Get away from her, you bitch!
Réveillez-vous, les filles! On va laisser les hommes sauver l'univers?
Dodge this.
Aujourd'hui, dans le retour de la chronique badass, je vous emmène dans l'Algérie kabyle de la fin du 19e et début 20e pour vous parler de Fatma Ait Mansour Amrouche, autrement dite Fatma Amrouche, fille, mère, poétesse survivante. Fille illégitime d'une guerrière veuve et répudiée, elle démarre sa vie comme une adénium sur de la rocaille, improbable survie, d'où éclot la poésie. Je vous passe le couplet sur le patriarcat qui rend les hommes cons, mais sa mère, Aina Ait El Arbi Oussaïd, est veuve du vieillard qui l'a épousée presque enfant et qui meurt de malédiction après avoir assassiné son propre petit frère pour l'empêcher de transmettre ses biens à son épouse qui ne lui a pas donné de descendance. Aina, seule avec deux enfants en bas âge, refuse la tradition en ne rentrant pas chez sa mère et s'accroche à ses terres, au patrimoine de ses enfants. En cela, et pour cela, elle est répudiée par son propre frère et survit seule entre moissons, sécheresses, élevage des animaux et des enfants. Dans cette vie de labeur, un voisin lui vient en aide et de l'idylle allait naître Fatma. Wesh, alors je pourrais m'arrêter là hein, pour sa naissance, mais nah. Aina, elle vit seule, elle doit accomplir des tâches harassantes de l'aube à l'aurore pour pouvoir nourrir ses deux enfants. Elle le fera enceinte, elle le fera en couche, accouchement qu'elle traverse seule, abandonnée de toutes les autres femmes du village. Elle coupera même le cordon avec ses dents et devant ses enfants. Puis elle reprendra l'accomplissement de toutes ses tâches le lendemain, Fatma au sein, avancer pour ne pas mourir. Alors, petit extrait. Le 9e jour après ma naissance, ma mère me mit dans son giron, contre sa poitrine, car il avait neigé, prit ses enfants chacun d'une main et alla déposer une plainte contre mon père entre les mains du procureur de la République. Elle voulait que mon père me reconnaisse et me donne son nom. Lui, refusait, car il était fiancé à une fille du village, d'une puissante famille qui le menaçait de le tuer s'il abandonnait cette fille, et il avait peur. Le procès dura 3 ans. Pendant tout ce temps, ma mère, par le froid comme par la chaleur, revint plaider et harceler les juges. Tous les témoins disaient que c'était bien mon père, car j'étais son vivant portrait. Au bout de 3 ans, il fut condamné aux dommages-intérêts. 300 francs, que ma mère refusa. Mais la loi interdisait en ce temps-là la recherche de la paternité. On ne put le contraindre à me reconnaître, et j'eus sur le front le cachet de la honte. De désespoir, ma mère me plongea dans une fontaine glacée, mais je n'en mourus pas. Ma mère poursuivait sa tâche habituelle sans aide aucune, de nuit comme de jour, lavant, cardant, peignant, filant et tissant la laine, labourant ses champs, cueillant ses figues, ses raisins, ses olives, faisant son ménage et la cuisine, criblant et moulant le blé, orge ou gland, charriant l'eau et portant son bois. Quand j'étais toute petite, elle me laissait endormie jusqu'à son retour. Quand j'étais un peu plus grande, elle déposait à côté de moi une petite cruche d'eau et une écuelle contenant un petit tas de couscous. En me réveillant, je trouvais ce petit tas, je prenais les grains que je mangeais, puis le couscous fini, je buvais à la petite cruche qui avait un petit goulot. Voilà. Ainsi, sa mère guerrière poursuit le cours de son labeur, peut-être en goûtant la saveur amère de la liberté. Fatma, elle, reçoit le fardeau de l'opprobre. Au rejet s'ajoutent les brimades des autres enfants et les femmes du village, poussant sa mère à la confier aux bonnes sœurs des colons blancs, qui reprirent le flambeau des humiliations. À l'école des Blancs, elle se convertit et ajoute à l'opprobre la trahison. À 16 ans, elle décide de se marier, et tous deux s'exilent, kabyles, chrétiens, à Tunis. Là, elle endosse une autre solitude, elle est la kabyle parmi les Arabes. Et ainsi commence sa vie de petits gestes d'accumulation. Figues, grains, laine, sous pour sous, entre rejet des Arabes, des kabyles, des musulmans, et espérance de recevoir les retombées du travail de son mari pour les colons. Dans ce quotidien de labeur, elle met au monde 8 enfants. Et reprend, après chaque couche, les tâches d'accumulation et humiliation. Elle cultive, elle transmet la terre nourricière. Elle cultive, elle transmet la culture qui l'ostracise. Elle cultive et transmet à ses enfants, en fait des poètes et des poétesses. Elle voit mourir 5 d'entre eux, dont 3 à la guerre la même année, 1940. De sa douleur, elle cultive et transmet le chant kabyle et la poésie de celle qui donne la vie plutôt que de faire la guerre. Étrangère, exilée, elle chante les douleurs de toutes les mères. À l'heure où l'Occident pense trier parmi les êtres humains le bon grain de livrée, Fatma nous laisse un poème. Génie de l'Occident. Génie de l'Occident, soyez favorable à mon enfant qui vient vers vous. Étendez sur elle votre protection. Ses cheveux sont comme l'aile du corbeau, ses prunelles et ses sourcils plus noirs encore, et ses grands cils recourbés. Sa chair est pareille aux roses épanouies sur lesquelles s'est posée la rosée, alors qu'il faisait encore nuit. Sa bouche est une grenade entrouverte, et ses dents un collier de perles. L'ambre de son cou est si claire qu'il devient transparent quand elle boit. L'on croit y voir l'eau courir. Ses mains sont toutes menues comme celles d'un enfant, elles ont la douceur de la soie. Le Seigneur l'a créée pleine de grâce. Les jours où des bijoux rehaussent sa beauté, qu'il veuille la préserver des regards malveillants. Ô mon Dieu, prends soin d'elle et comble-la de joie. Ouvre-lui toutes grandes les portes et les voies. Peuple sa solitude, rends-lui léger l'exil et transfigure-la au regard de chacun. Dodge this. Alors j'invite tout le monde à prendre connaissance de tous les foisonnants détails de la vie de Fatma Ait Mansour Amrouche dans un livre intitulé « Histoire de ma vie » dans la collection « La découverte poche » par exemple. Et là-dedans, vous trouverez aussi les références pour les écrits de ces 2 enfants, Jean Amrouche et Marguerite Taos Amrouche, qui ont eux aussi beaucoup écrit.
Voilà.
Eh ben, quelle histoire.
Merci beaucoup Lily pour cette fameuse histoire que tu nous avais déjà parlé en off, mais tu nous avais dit n'avoir pas encore fini le livre, donc c'est avec grand plaisir qu'on ait pu écouter tout ça.
Ouais, c'est impressionnant quand même de se dire tout ce qu'elle a pu vivre, cette femme. C'est à chaque fois, elle est dans la résilience, dans la reconstruction, dans l'avancée, et à chaque fois l'idée que la vie perdure, quoi. Et ouais. Waouh.
C'est magnifique.
Ouais.
Nous arrivons à la fin de cette petite émission. Donc, on se dit, comme d'habitude, au mois prochain. Merci beaucoup, Sarah.
Merci à toi, Florian.
Et merci à Lily pour la chronique badass. On se quitte avec Ellie Love et son titre « Révolution ». C'est une artiste kurde.
Elle est kurde et elle a été conseillée à nouveau par Roxane. Donc voilà, un titre bien révolutionnaire, comme son titre l'indique, qui fait du bien parce que je pense qu'on a besoin d'essence pour continuer à combattre.
Allez, à bientôt, des bisous.
Le gang des histoires.